Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
La Samaritaine, c'était le thème précédent de notre échange sur notre lecture de l'évangile de Jean. La Samaritaine, vous avez compris, c'est chacun d'entre nous. Faut-il adorer Dieu sur cet endroit-là ou sur un autre et par des rites à démultiplier? Non, vient le moment où on n'adorera plus sur cette montagne ni sur l'autre, dit Jésus, mais en esprit et en vérité. Car tels sont ceux que Dieu se choisit comme adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon Dieu. Et quand nous regardons autour de nous, est-ce que nous pratiquons notre pratique religieuse, vous tous qui m'écoutez? Combien nous avons démultiplié les choses, les rites, les pratiques de piété, comme on dit, au détriment de l'adorer en esprit et en vérité. C'est le vieux Jean qui nous le dit, celui qui a tout laissé tomber et s'en est remis uniquement au cœur de Dieu, cœur à cœur, dira un autre Jean de la Croix, quelques 15 siècles plus tard. Faut-il des rites, bien sûr, faut-il des cérémonies ou des pratiques, bien sûr. Mais si la périphérie l'emporte sur le centre, si la superstructure l'emporte sur le fondement, si ce qui est précaire l'emporte sur le seul nécessaire, alors on fabrique une belle religion du communautarisme, de l'exclusion. Retour salutaire à l'essentiel. En sommes-nous capables, nous, l'Église catholique romaine?
Entre-temps, les disciples le pressaient. « Maître, mange donc un morceau !» Mais lui les repoussait de la main. « Non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples n'y comprenaient plus rien. Quelqu'un lui aurait-il déjà porté à manger ? Mais Jésus les interrompit. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous-même vous dites, encore 4 mois, et ce sera la moisson. » Et haussant soudain le ton, dans la blancheur dure de midi, « Mais moi, je vous dis, levez les yeux, regardez. Déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire en amassant le grain éternel, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le proverbe a raison, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné pour vous. » Beaucoup de villageois avaient cru la Samaritaine. Quand ils furent autour de Jésus, ils le prièrent de rester chez eux. Jésus demeura 2 jours avec eux, et bien plus nombreux encore furent ceux qui, alors, crurent en lui. Ceux-là répétaient à la femme, « Ce n'est plus seulement grâce à toi que nous croyons. Maintenant, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est lui qui pourra tous nous sauver. » Après avoir passé 2 jours chez eux, Jésus prit le chemin de la Galilée, bien qu'il ait fait un jour cette réflexion, « Un prophète n'est pas reconnu dans son propre pays. » À son arrivée, les Galiléens l'accueillirent avec enthousiasme, car ils avaient été témoins de ce qu'il avait fait à Jérusalem durant les fêtes de Pâques. Ils avaient fait le voyage eux aussi. Il revint alors à Cana de Galilée, là où il avait changé l'eau en vin, et voilà qu'un fonctionnaire royal de Capharnaüm avait son fils malade. En apprenant que Jésus venait d'entrer en Galilée, il se mit en route pour aller à sa rencontre et le prier de descendre rétablir son fils qui était à la mort. Jésus le regarda en hochant la tête. « Alors, si vous ne voyez pas de signes ni de prodiges, vous ne pouvez pas croire. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, viens avant que mon fils ne meure. » « Va, ton fils vit. » Stupeur soudain. L'homme croit immédiatement la parole de Jésus, et sans un mot, il s'en retourne. On le suit du regard. On ne sait que penser. On se tait, à la fois inquiet, étonné et heureux. L'homme commence déjà la descente vers la mer, que ses serviteurs accourent à lui en lui criant que l'enfant vit. Il s'enquiert de l'heure à laquelle il s'était senti mieux. On lui répond qu'à la 7e heure, la veille au soir, la fièvre l'avait laissé. Et le père se souvient qu'à la même heure, Jésus lui disait, « Ton fils vit. » Il se mit à croire, et toute sa maison avec lui, c'était le second signe de Jésus sur la route de Judée en Galilée. 3e semaine. Toute la Galilée parlait de l'affaire de Capharnaüm. D'ailleurs, on aurait pu dire aussi l'affaire de Cana, car c'est depuis Cana où il était remonté entre-temps que Jésus avait en quelque sorte téléguéri le fils de l'officier royal. On arrivait déjà en vue de Sichem, à mi-chemin de Jérusalem, où il montait pour la fête. Il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, dans le quartier de Betzata, situé au nord-est du temple, une piscine à 5 portiques où gisait en permanence une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents, etc. Ces pauvres gens attendaient l'agitation de l'eau. En effet, la tradition a apporté, espérance folle quand on n'a plus rien à perdre et tout à gagner, une vieille tradition donc disait qu'à certains moments, un messager de Dieu descendait dans la piscine. L'eau s'agitait alors et le premier qui entrait après que l'eau eût bouillonné était guéri. Quelle que fût sa maladie. Ces malheureux attendaient une vie durant, prostrés au fond de leur malheur, comme au fond d'une prison, sans barreaux, mais dont on ne peut s'échapper. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. 38 ans! Toute une vie! Jésus le vit couché là, et ne put s'empêcher de lui demander depuis combien de temps il était dans cet état. « Veux-tu guérir ?» lui demanda-t-il soudain. « Quelle question ! Qu'espérait-il comme réponse ?» L'autre pourtant, sur le ton de la résignation, lui répondit, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, j'arrive à peine à me traîner, un autre y bascule avant moi. » La voix de Jésus résonna alors ferme, claire, définitive, sous le portique hôpital noyé de soleil. « Lève-toi. Prends ta civière et marche. » Et aussitôt, oui, sur le champ, l'homme fut guéri. Il prit sa civière, il marchait. Tout d'abord, ce furent des cris de joie, d'étonnement, d'admiration, de louange, d'action de grâce. Mais voilà, quelqu'un, il y en a toujours un qui ferait mieux de se taire, hein, fit remarquer que ce jour-là était un jour de sabbat. Aussitôt, la foule versatile se retourna contre l'homme. « C'est le sabbat ? Il est interdit de transporter quoi que ce soit ? » C'est en effet une des prescriptions relatives au repos du sabbat. Mais lui de répliquer, « Celui qui m'a guéri, c'est celui qui m'a dit, « Lève-toi, prends ta civière et marche. » On passa alors à l'interrogatoire. « Qui est cet homme ? Qui t'a donné un ordre pareil ? » mais je n'en sais rien. » Jésus, de toute façon, s'était mêlé à la foule et avait disparu.
Troisième semaine, elle commence, elle, par le miracle, par l'étonnement des yeux. La seconde était autour de la remise sur pied, au sens de ressusciter le serviteur, de guérir le serviteur du centurion. Et la première, c'était remettre sur pied une fête qui allait mal finir. Se remettre sur pied est intéressant comme formule. Les trois premiers miracles, les trois premières semaines, les trois premiers engagement de Jésus, c'est remettre en route ce qui se casse. La fête, par manque de vin. La maladie, en rendant la santé. Et là, en refaisant remarcher quelqu'un qui ne peut plus marcher. Donc, il sème le bien. Ce que nous présente Jean, c'est que toutes ces actions qui sont physiques, qui sont matérielles, qui sont pragmatiques, renvoient à quelque chose de symbolique. Refaire la fête, c'est-à-dire nous remettre en réconciliation avec Dieu par le vin du sacrifice, par le vin de la fête,